On a remarqué, nous, dans l'association, que 50%, voire plus maintenant, des femmes que nous avons accueillies, ou qui sont toujours accueillies, sont soit infirmières, soit aides-soignantes, avec une étiquette de sauveuse extrêmement affirmée. Elles sont persuadées qu'elles vont sauver monsieur, elles vont pouvoir le remettre sur le droit chemin, elles vont pouvoir être à ses côtés pour qu'il s'en sorte. Ce syndrome de sauveuse fait que souvent, madame a du mal à partir. Elle reste pour aller jusqu'au bout de ça.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Pour ce deuxième épisode, sur le vif, une nouvelle voix s'élève pour nous décrire le mécanisme d'emprise du cycle de la violence, un schéma d'agression qui se perpétue en silence et qui continue d'isoler les victimes de violences conjugales. À savoir que peu d'entre elles ont conscience du poids de son emprise et de ses conséquences destructrices. Alors, pour nous éclairer, c'est aujourd'hui l'association Cultivons la Confiance, basée à Saint-Sauveur de Montagu, en Ardèche, qui nous détaille les rouages de ce cycle et nous explique comment ces bénévoles accompagnent les victimes pour en sortir et pour redonner la place à la confiance, tout en cultivant la résilience.
Donc je suis Muriel, on a créé l'association Cultivons la Confiance avec Astrid Noquet et Eva Cauche, on est toutes les trois du territoire depuis longtemps. Et c'était une évidence que de se mettre au service des femmes. Dans ma famille, il y a eu à peu près toutes les maltraitances familiales possibles. Donc j'avais vraiment envie d'œuvrer pour ça. Pour la Covid, on s'est dit qu'il fallait absolument agir, faire quelque chose sur le terrain. On était parti sur un gros projet qu'on a laissé tomber. Et on a ouvert des hébergements d'urgence dans des familles qu'on connaît, des familles de confiance, de façon à ce que toutes ces maltraitances qui émergeaient pendant la Covid, puissent trouver des réponses locales et soutenir des femmes qui en avaient vraiment besoin.
Est-ce qu'il y avait un constat que les violences s'accentuaient avec le confinement ?
Bien sûr, du fait que les auteurs de violences restent en famille, enfermés, ça a explosé, pulvérisé, ça a battu des records de violence. Ça a permis aussi, mine de rien, de faire émerger un Grenelle contre les violences faites aux femmes. Enfin voilà, ça a permis d'ouvrir la parole. Donc en ça, c'est bien. Mais ça nous a obligés à agir rapidement, à rebondir là-dessus. Et ça a été notre premier engagement vis-à-vis de cette association, qui était d'ouvrir de l'hébergement d'urgence.
En 2020, suite à la pandémie du Covid-19, la libération de la parole s'est confinée. Selon un rapport de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences, daté d'août 2020, le nombre d'appels reçus par le service d'écoute des victimes, le 3919, a bondi d'environ 400% entre la semaine du 9 mars 2020, avant le confinement, et la semaine du 20 avril 2020, pendant. Le nombre d'appels est ainsi passé de 2145 à 8213.
On a été soutenus par la mairie de Saint-Sauveur qui nous a offert un téléphone, puisqu'avant ça passait sur nos téléphones personnels, donc ouf. On a pu avoir une ligne dédiée à l'association. Et puis voilà, on a eu de plus en plus d'appels. Et donc, on répond longuement au téléphone. On a souvent des appels d'aide. On ne répond pas à toutes les demandes d'hébergement parce que toutes ne correspondent pas à ce qu'on peut offrir. Mais on est très présente sur le territoire. On est en lien, évidemment, avec la gendarmerie des Ollières-sur-Eyrieux, avec le CIDFF. On est en lien avec la CAF, avec le département, avec beaucoup d'institutions alentour. Voilà, on commence à avoir une reconnaissance officielle et professionnelle aussi sur les accompagnements qu'on propose.
Donc le réseau est bien installé en Centre-Ardèche ?
Oui, le réseau est fortement installé. Nous étions trois donc cofondatrices. Et le conseil d'administration s'est étoffé. Nous sommes huit maintenant, avec des spécificités qui nous apportent énormément, qui nous manquaient. Entre autres pour les enfants, ce qui fait que l'association a élargi son panel de propositions, entre autres des ateliers de père aidance, des stages d'autodéfense. Donc voilà, on est très heureuse du chemin que prend l'association et de pouvoir répondre à multiples demandes aussi, entre autres par exemple de femmes que nous avions accompagnées tout au début, que nous avions hébergées et qui, 4 ans après, 5 ans après, sont toujours présentes, ont toujours besoin de soutien. Parce que la reconstruction est très très longue dans ce système d'emprise et de violence.
Et chez ces femmes que vous accompagnez, quelle récurrence de violence vous constatez ?
Alors je vais utiliser le terme d'agresseur et de victime. Et c'est genré, mais c'est genré volontairement, puisque 83% des personnes sont des hommes. 83% sont des auteurs de violence. Donc ça laisse quand même 17% de femmes. Néanmoins, je vais utiliser un vocabulaire genré. Il y a le rabaissement, l'humiliation systématique. Ça, c'est, je pense que c'est la première violence que toutes subissent. L'agresseur, voilà, va souvent mettre la main sur les économies, sur les comptes bancaires, sur la liberté. Il peut entraver totalement la liberté de madame. Évidemment, il y a les violences sexuelles. Il y a des violences psychologiques très, très fortes, mais ça, on le sait, mais très difficiles à sentir, à expliquer. Il y a des violences spirituelles aussi. On peut obliger madame à se convertir à une religion alors que ce n'est pas son souhait. Et il y a même, je pense, d'autres types de violences qu'on n'a pas nommées encore, dont on n'a pas forcément conscience.
Donc ces violences, elles sont diverses. Est-ce qu'elles sont ponctuelles ou stables ou est-ce qu'elles reviennent régulièrement ?
Alors, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que voilà, évidemment, le cycle de la violence qui amène à l'emprise, c'est vraiment un cycle. Toutes les femmes à qui on en a parlé, toutes les femmes que nous avons accompagnées, que nous accompagnons, se retrouvent dans ce cycle. Quand on leur explique ce cycle de la violence, on voit leurs yeux s'éclairer, on les sent qui percutent, qui se disent « Ah, mais je fais vraiment partie d'un système classique, récurrent, qui est mis en place et qui est à peu près le même pour tous les auteurs de violence et pour toutes les femmes qui subissent des violences. »
Et si vous nous le détaillez maintenant, par quoi il commence, ce cycle de la violence ?
Ça commence par la rencontre. Il faut savoir aussi que les auteurs de violence, la plupart du temps, ce sont des êtres extrêmement charismatiques, généreux, très bien vus, très cultivés, et qui ont un système mimétique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de répondre totalement à la demande de madame. « Oh, mais ma chérie, tu aimes randonner, mais j'adore randonner. Oh, tu aimes la mer, mais partons à la mer, j'aime tellement ça. » Ce qui fait que madame a l'impression d'avoir enfin rencontré l'âme sœur. C'est le conte de fées, vraiment. Il y a une fusion, quelque chose qui se met en place. Et là, madame, elle est ferrée. Elle est vraiment, c'est un gros hameçon auquel elle a bien mordu. Et là, le cycle va se mettre en place doucement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une jolie période, normalement, féerique. Après cette rencontre, il y a la phase de tension où l'agresseur va commencer à alterner des démonstrations et des preuves d'amour et puis des changements d'attitude. Il va commencer à râler si madame est à son téléphone ou faire des crises de jalousie comme « Bon, allez, c'est bon, là, finis ton repas, on demande l'addition, on s'en va. Ben oui, non, mais t'as vu comment le serveur te regarde, c'est bon, allez, hop. » Et voilà, petit à petit, il y a plein de situations comme ça, subtiles, où madame va se demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» En même temps, il a toujours ce côté charmant, donc madame commence à être un peu déstabilisée, elle subit un chaud et froid, elle comprend pas bien ce qui se passe, donc il y a de l'anxiété qui s'installe. Ensuite, il y a la phase d'agression. Tout ce qui commence à s'instaurer doucement entre ce chaud et froid commence à monter en pression. Il y a une violence qui commence à être ritualisée, instaurée quotidiennement. Un climat de peur. Madame ne sait jamais quelle va être la réaction de monsieur. Est-ce que le plat est trop salé ? Et là, ça va devenir insupportable. Et monsieur commence à isoler madame de ses amis, de ses enfants s'ils sont grands, de ses voisins. Il la soumet, il commence à la soumettre vraiment. Et il commence à la rabaisser systématiquement. Ben voilà, t'as encore pas mis les chaussettes à l'enfant. « Ah non, mais franchement, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et il amplifie toutes les violences et toutes les situations, il va les amplifier. « De toute façon, sans moi, tu n'es rien. T'es bonne à rien, mais regarde-moi ça comme t'es maladroite. » Et là, donc, ça devient un lavage de cerveau pour madame, qui ne sait plus si c'est de la colère, de la tristesse, il y a le découragement. S'il y a des enfants, évidemment, elle va tout mettre en place aussi pour les protéger. Donc elle va glisser sous ses remontrances. le cerveau commence à se dissocier. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus vraiment, à force, si elle agit comme l'agresseur le prétend. Elle dit que oui, ben peut-être c'est vrai, que finalement c'est elle qui a mal agi. Elle devient très balbutiante, elle n'a plus du tout son libre arbitre et sa faculté de penser. Donc là, il y a quelque chose de proche de la folie qui arrive. Ben, je t'avais dit que je ne rentrerais pas, enfin, t'oublies tout, tu te souviens de rien. Et puis une bonne épouse, mais ça se comporte absolument pas comme ça. Et puis la quatrième phase, qui est la phase la plus percutante, donc qui est ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. Ou alors l'agresseur va minimiser systématiquement ses actes, et petit à petit, ça va toujours être la faute de madame. Tout ce que monsieur met en place, tous ses fonctionnements, tous ses dérapages, toute sa violence, ça va être de la faute de madame. Oui, bah ça va, c'est pas si grave, hein, c'est pas la peine d'en faire une montagne non plus. Et puis, ah ben oui, là, c'est vrai que j'étais un peu sauté dessus. Je t'ai pas vraiment demandé ton avis, mais enfin, t'as vu ta jupe aussi. Si tu la mettais un peu plus longue, tu me tenterais moins peut-être. Hein. Là, donc le cerveau commence à se dissocier sérieusement. Il y a même de la sidération qui s'installe. Quand le corps se met en survie, quand la violence est trop puissante, surtout quand ça vient à l'intérieur de la famille. Parce que la violence qui est exercée à l'extérieur de la famille, on s'y attend davantage. Quand ça se passe à l'intérieur de la famille, le cerveau n'est pas capable de concevoir ça. Et il va stocker cette information dans un endroit du cerveau. Et ça va rester figé à cet endroit-là. Le cerveau a la capacité d'oublier ce qui s'est passé. Ça ressurgira plus tard, lors de thérapie, lors de prise de conscience, lors d'ateliers parfois, justement. Souvent, elle ne peut plus travailler, elle n'a plus les capacités physiques, elle tombe malade. C'est aussi un moment où elle peut compenser avec des drogues, que ce soit l'alcool, la marijuana, la nourriture. Il y a un vrai risque de suicide à ce moment-là, parce que la seule façon de mettre un terme à tout ça, c'est la mort.
Selon l'Observatoire des violences conjugales, en 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 684 victimes ayant tenté de se suicider ou s'étant suicidées suite au harcèlement de leur ex-partenaire. Toutefois, l'étude ne fait pas de distinction entre suicide ayant abouti à un décès et tentative de suicide, ni la part des femmes dans le nombre de victimes.
La capacité à s'aimer, là, je crois qu'elle est même plus entendable. La madame est détruite, et pour que cette violence s'arrête, l'emprise est tellement forte qu'elle n'a plus aucune faculté de penser et de se remettre en question. Elle n'a plus aucune confiance en elle, elle est totalement déstructurée. Et que c'est une telle agitation interne, un tel bouillonnement et un tel va-et-vient de chaud, de froid, de mal-être, il y a une honte et une culpabilité extrêmes également. Et que la seule façon de s'arrêter parfois, mais c'est de s'arrêter de vivre, parce que comme ça, on arrête de penser. C'est souvent là que l'agresseur va trop loin, il pousse un peu trop le bouchon, et que madame peut avoir un rebond, se dire « non mais là c'est plus possible ce que je vis, je dois sortir de ça ». Donc c'est souvent à cet endroit-là qu'elle peut aller demander de l'aide ou mettre en place enfin quelque chose qui lui permette de partir. Et c'est souvent là aussi que l'auteur de violence va essayer de la récupérer en disant « Mais je vais me faire soigner, je te promets, ça n'arrivera plus, excuse-moi, on va y arriver ensemble, reste auprès de moi, tu es tout pour moi ». Ah, c'est ce qu'on appelle la phase de la lune de miel. La victime, elle va toujours minimiser, donc madame va toujours minimiser les violences reçues. Elle va toujours trouver des excuses à l'agresseur. Se trouver fautive, se dire que finalement elle y est un peu pour quelque chose. La vérité est tellement douloureuse qu'elle va toujours essayer de s'arranger avec ça. C'est pas conscient, hein. C'est pour que ça passe mieux, que pour même elle, elle ait plus de considération pour elle, pour continuer à vivre. Et ça, ce sont des mécanismes inconscients qui se mettent en place.
D'après l'enquête des victimations Genèse 2021, seulement une victime de violence conjugale sur quatre signale au service de sécurité l'effet qu'elle a subi.
Il y a deux types de départs lors de ces prises de conscience-là. Soit, ben, au bout d'un mois, le début du cycle se met en place et monsieur commence à faire des scènes. Et là, c'est immédiat, je ne vais pas supporter ça, je m'en vais. C'est hors de question que je vive ça avec un homme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le départ immédiat. Et le plus souvent, c'est ce qu'on appelle un départ évolutif. Après une succession de départs, on sait qu'il faut en moyenne 7 départs pour que madame puisse acter un départ définitif. C'est en moyenne, ça peut être beaucoup plus, ça peut être moins. Mais ça donne une idée. Je sais que moi-même, avant d'être dans cette association, je me disais, oui, ben, si elle se fait frapper, elle n'a qu'à partir, hein, franchement. Eh bien non, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est tellement insidieux, ça se met tellement doucement en place, avec une déstructuration, que ce n'est pas possible d'avoir conscience de ce qui se passe. Tout le monde, nous avons tous des voisins, des amis qui sont des pervers narcissiques ou des hommes maltraitants ou des femmes maltraitantes. Tous. Et nous sommes tellement peu à en avoir conscience. Déjà parce que c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir, de se dire non mais... Et c'est tout simplement très difficile à voir, de s'en rendre compte.
Et si un jour on a un doute, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qui est à notre portée?
Si vous vous posez la question, votre voisine, vous avez l'impression quand même que monsieur crie beaucoup. Mmh. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une femme, quand je vais chercher mon enfant à l'école, elle a souvent des bleus. Si vous vous posez des questions comme ça et que vous vous demandez quoi faire, il y a une posture toute simple et merveilleuse. Vous pouvez dire à cette femme, écoute, si jamais tu as besoin de parler, tiens, voilà mon téléphone. Et vous lui donnez un petit papier avec votre numéro de téléphone. N'hésite pas à m'appeler. Voilà, ma porte est ouverte, quand tu le souhaites. Et si jamais cette personne fait ce chemin-là, de venir vers vous, c'est d'être prête à écouter ce qu'elle a à dire sans jugement, sans s'apitoyer, sans pitié, sans minimiser, d'être vraiment accueillante dans ce qui est là. Et au contraire, de la valoriser, de lui dire « Bravo, mais c'est bien ce que tu fais, c'est courageux, on va trouver des moyens de t'aider. »
Si une femme, par exemple, vient vous voir demain, qu'elle a envie de partir, mais ne sait pas comment, qu'est-ce que vous lui diriez en premier lieu?
Alors, si jamais vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, quelque chose de dramatique, d'abord, vous faites le 17. Évidemment, vous composez le 17, vous appelez la gendarmerie. Il y a des féminicides, ça existe, mais ne vous mettez pas en danger. Mettez-vous en sécurité au maximum. Ensuite, suivant là où vous en êtes, vous pouvez aussi, par exemple, constituer un petit bagage avec vos papiers prioritaires. Il y a quelque chose qui s'appelle Mémo de vie aussi, sur Internet, qui est un site très actif sur lequel vous pouvez prendre vos coups et blessures en photo, photographier vos papiers d'identité. Vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez. Vous pouvez tenir un petit journal parce qu'on oublie la moitié de tout ce qu'on vit. Et c'est un site qui permet d'être quitté très rapidement et de se mettre sur la page météo si jamais monsieur arrive rapidement.
L'entraide est là aussi.
Oui, bien sûr. Et puis, ben, évidemment, vous pouvez appeler l'association. Alors, on est bénévole, on travaille à côté, donc on n'a pas une astreinte 24-24. Mais on répond très rapidement, on est réactive. Et si on trouve toujours moyen d'orienter, de soutenir. Et puis voilà, avec tous les organismes que j'ai cités auparavant aussi pour vous soutenir et vous dire que si vous en êtes là, si vous êtes prête à acter un départ, c'est que vous êtes courageuse, forte et qu'on est là pour vous accompagner.
Vous n'êtes pas seule.
Vous n'êtes pas seule, non.
Sur le vif.
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 Les premiers contacts, quand les femmes actent leur départ ou souhaitent l'acter, souvent se font par téléphone. Elles ont besoin d'écoute, elles sont anéanties, elles ont l'élan de partir. Et pour elles, elles se disent que l'essentiel est fait. Voilà, là ça y est, je vais acter le départ ou je l'acte. C'est le plus gros morceau de ma vie. Elles ont eu quand même les épaules larges, mine de rien, jusqu'à présent. Elles se sont occupées des enfants, d'elles, comme elles pouvaient. Quand elles arrivent, elles se relâchent. Elles sont épuisées. Elles ont besoin d'être en sécurité. Le premier mot, c'est d'être en sécurité, loin de monsieur.
En septembre 2019, le gouvernement français lance le Grenelle des violences conjugales. Un engagement de 54 mesures, en concertation avec des experts issus du monde associatif, pour renforcer la prévention, la protection des victimes et pour un meilleur suivi des auteurs de violences conjugales. En 2022, ce sont 46 des 53 mesures engagées, dont la création de 9000 hébergements d'urgence, qui sont effectives. Cependant, selon un rapport du Sénat publié en 2022, ce sont des avancées en demi-teinte pour les associations rurales. Nombreuses d'entre elles constatent un manque de budget réel et de fortes inégalités territoriales. Par exemple, en 2021, 4 femmes sur 10 ayant fait la demande d'hébergement d'urgence sont restées sans solution. Une année qui fait aussi le bilan d'une hausse de 20% des féminicides.
Donc c'est là que l'association Cultivons la Confiance a ouvert donc ses hébergements dans des familles. Et ce dont on ne se rendait pas compte, on est très, très peu nombreux en France à offrir ce genre de service-là. Souvent, les femmes se retrouvent via le 115 dans des hôtels ou des hébergements d'urgence, mais seules. Et là, le fait d'être dans des familles normales, elles se rendent compte immédiatement de la violence qu'elles ont subie. Elles se rendent compte immédiatement, dans les 1 ou 2 jours qui suivent, que ce qu'elles ont vécu n'est pas normal. Que ça peut être ça, un couple, parce que très souvent, elles mettent beaucoup de temps à réaliser que ce qu'elles ont vécu n'est pas normal. Il leur faut un temps très très long. Et plus ce temps est raccourci, plus ça leur ouvre des espaces de guérison et de compréhension. Et ça, c'est vrai que quand on avait proposé ça avec l'association, on ne se rendait pas compte à quel point c'était soutenant. Ces familles qui sont là, avec ou sans enfants, dans un cycle normal de vie. On est très fiers du résultat que ça amène et de la confiance que ça apporte à ces femmes-là. Et à leurs enfants d'ailleurs aussi. Les taux d'affectation de ces femmes sont très différents. Néanmoins, elles sont toutes des béances. Et elles ont vraiment besoin d'un soutien immédiat quand on les accueille. Parce qu'elles pensent que le plus gros est fait, en réalité le plus gros reste à faire. Donc on sait que la première chose à faire, c'est de les encourager, de reconnaître leurs forces, de leur montrer qu'elles sont courageuses, qu'ensuite il y a des ateliers qui sont proposés, mais avant d'intégrer les ateliers même, on fait un suivi de jour, nous, dans les familles. Les familles s'occupent de l'économade, du confort, du bien-être. Mais il y a des membres de l'association qui passent chaque jour ou tous les 2 jours pour leur remettre confiance, pour remettre du corporel, du ressenti, de l'émotion. Effectivement aussi pour orienter, hein, expliquer ben, toutes les mesures et tous les soutiens dont elles peuvent bénéficier. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est qu'elles puissent reconnaître leurs qualités, leurs capacités et leurs dons. Alors il y a un don qui est extrêmement précieux, qui est la résilience. Et ça, eh bien, on aimerait pouvoir le cultiver, avoir la baguette magique de résilience, parce que c'est vraiment ce qui permet une guérison beaucoup plus rapide, et des enseignements, ce qui a été vécu, et ce qui permet d'éviter de retourner chercher ce genre de relations toxiques. Parce qu'on voit beaucoup de femmes pour qui être aimée, ça passe par les relations. Finalement, c'est comme ça que l'amour se propose.
Sortir du cycle de la violence, cultiver la confiance, la résilience et réinventer l'amour. Sans l'aide et l'accompagnement de ces associations locales qui agissent au quotidien pour ces femmes isolées victimes de violences, le tabou des coups et du silence aurait blessé et tué davantage chaque année.
Alors évidemment, nous, il y a cette association qui soutient sous toute forme ces femmes-là, mais il y a le planning familial, il y a le centre médico-social. Voilà, on est plusieurs acteurs sur le territoire, le CIDFF, le Centre d'information des droits et de la femme et de la famille, l'AMAV aussi, l'association d'aide aux victimes. Donc voilà, il y a un réseau qui est quand même bien tissé.
Avec la création du collectif Viferieux au printemps 2024, dont l'association Cultivons la Confiance fait partie, un nouvel élan citoyen est né sur le territoire ardéchois. Pour appuyer les actions de toutes ces associations rurales, souvent trop éloignées l'une d'entre elles, il est devenu nécessaire de mutualiser les efforts et d'impulser de nouveaux dialogues entre habitantes, habitants, professionnels, élus locaux, pour rappeler que les violences ne s'arrêtent pas aux portes des villes. Et qu'on a toutes et tous un pouvoir d'agir.
Vous, fameux esclaves, éprisons nos entraves, debout, debout, debout.
Et donc voilà, ensuite, il y a ces ateliers qui ont été mis en place, oui, avec quelque chose d'admirable qui est les cercles de parole, où il y en a qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. Et juste en entendant ces femmes expliquer, qui ont les yeux qui s'ouvrent, mais c'est exactement ça. Et par les effets miroirs, elles arrivent simplement à comprendre ce qu'elles ont vécu. Ça les éclaire. Et puis elles ont toutes des enfants, elles ont souvent un partage commun de tout ça. Et beaucoup, beaucoup de conseils, de tuyaux à se donner. De « Ah, mais t'as vécu ça devant le juge, il s'est passé comme ça. Ah, et monsieur voulait récupérer l'enfant. Moi, j'ai vécu ça, tu peux faire comme ça. » Elles ont un nombre incalculable de soutien à s'apporter. Donc ça amène une sororité, quelque chose de très puissant, de « je ne suis pas seule ». Je suis dans quelque chose, dans un système classique et je ne suis pas seule et j'ai des sœurs autour de moi. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais il y a vraiment cette puissance du féminin dans ces moments-là. Et puis voilà, ça passe toujours par du corporel. On a une intervenante en Zumba qui est venue. On a du yoga, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par le corporel et par l'émotionnel aussi, de façon à renouer avec tout cet émotionnel qui a été coupé, avec tout ce corps aussi qui a été coupé. Et l'idée, c'était de faire des ateliers assez réguliers, courts, de façon à ce que ça sorte de l'extraordinaire et que ça fasse partie de la vie courante, qu'elle puisse cultiver ces qualités-là tous les jours. Ne s'appelle pas Cultivons la confiance pour rien, c'est vraiment notre don.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Une production de RDB Radio des Boutières avec le soutien et la participation du collectif de lutte contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche, collectif Viférieux. Un grand merci à Madeleine Villemino, Elsa Barato et Gaëlle Romeuf pour la création sonore de ce podcast, ainsi qu'à toutes les personnes chez Laroise qui ont prêté leur voix. Retrouvez et réécoutez tous les épisodes sur le vif, les voix de la résilience, en podcast sur rdbfm.com.